Salut Luc.
Ouais, bonjour à vous deux. Et en passant, solidarité avec Mathias. J'arborerais la moustache comme lui, mais vous ne la verriez pas. La mienne est trop blanche maintenant. Donc, mais je suis quand même solidaire.
À une autre époque, à une autre époque.
À une autre époque.
On dit que les modes reviennent. C'était ton cas, toi, en quelle année, Luc, la grosse moustache?
Non, j'ai pas porté ça très, très longtemps. Et c'était l'autre moitié du couple qui intervenait dans la décision. Donc, on a choisi d'investir dans la famille.
T'as choisi l'amour et non le poil. Écoute, dit comme ça, on peut pas avoir meilleur début de chronique ensemble parce que ben ça va attirer l'attention, c'est certain. Bon, pas ce qu'on vient de jaser, mais la rencontre entre Mark Carney et Donald Trump aujourd'hui aux États-Unis, je comprends, c'est dans un contexte sportif. Initialement, on est là pour la pige dans la Coupe du monde de soccer, mais ouais. Tu sais, c'est un prétexte en ce moment parce qu'on veut surtout avoir accès, j'ai l'impression, à Donald Trump pour avoir des discussions au niveau économique.
Oui, puis écoute, je suis parfois curieux de. J'aimerais savoir ce qu'imagine M. Poilievre dans ces circonstances-là. Parce que s'il n'y avait pas eu justement Donald Trump, c'est peut-être lui qui serait notre premier ministre actuellement. Comment se prépare-t-on à rencontrer Donald Trump et comment se prépare-t-on à le rencontrer le plus souvent possible alors que approchent les véritables renégociations du traité de libre-échange? Donc, c'est une des choses dont on parle moins. Hein. On s'inquiète toujours, bien sûr, de la réaction américaine, des tarifs américains, des exigences du président, du fait qu'on lui fait de petits cadeaux, de petites concessions, parfois de grosses, ici et là. Mais on n'est pas encore vraiment dans le vif du sujet. Ce qui est le plus gros hein, dans ce qu'on a géré avec lui, bien, ça s'en vient. Et probablement que M. Carney, qui habituellement est bien au fait hein, de ce qui se fait dans le secteur économique, secteur financier, il souhaite préparer le terrain, profiter de cette rencontre-là qui, normalement, est essentiellement conviviale et profiter du fait que, mine de rien, on va flatter le président Trump encore comme il aime l'être parce qu'on pense bien qu'on va lui remettre ce prix, hein, de ce premier prix pour la paix de la FIFA.
Ouais.
C'est pas un hasard, hein? Il n'a pas eu le Nobel de la paix. Puis tout de suite après, on dit ben, tant qu'à faire le tirage chez vous, pourquoi on ne vous remettrait pas? C'est notre première édition de ce prix pour la paix. Donc, disons que le contexte est favorable où on risque d'avoir un président Trump plus de bonne humeur. Souvent, c'est l'état dans lequel il est la journée où on le rencontre. Donc, j'ai hâte d'avoir des échos de ça, d'avoir plus de détails de cette rencontre-là, parce que oui, on cherche une proximité puis des liens les plus conviviaux possibles. Puis M. Carney, peu importe nos allégeances politiques, on est parfois déçus, on a l'impression qu'il fait des concessions, mais il a évité, je pense, le pire de Donald Trump depuis le début.
Ah, oh, tu penses ça? Parce que, écoute, les échos ou encore ouais. Les gens qui nous écoutent sont très vocaux sur le fait que pour eux, c'est un échec actuellement, le travail du premier ministre Carney.
Bien, tu vois, j'ai dit le pire. Ça ne signifie pas que comme Canadien ou comme Québécois, je sois content non plus. Si je regarde dans ma vie de tous les jours, si je regarde dans un horizon qui n'est pas si loin, il y a des choses qu'on perd déjà comme Québécois, puis on risque d'en perdre d'autres. Mais ça montre bien à quel point Donald Trump déstabilise la situation, peu importe la province canadienne ou encore qu'on parle du gouvernement canadien lui-même. C'est on s'en va à Washington et souvent dans le plan de match, c'est comment éviter d'être humilié. Donc, et quand on est déçu, puis qu'on essaie de prendre un peu de perspective, c'est que quand je dis que moi, il a évité le pire, c'est très, très clair. Tout le monde le dit au Canada. On veut diversifier notre économie, mais ça fait 20 ans que je couvre la politique et ça fait 20 ans que j'entends ça. Mais diversifier notre économie, trouver de nouveaux partenaires, investir de nouveaux terrains de jeu pour l'économie, c'est des choses qui ne se font pas hein, en claquant des doigts, on se vire pas sur un dixième, comme on dit parfois dans le jargon. Ça demande des investissements à moyen et à long terme. Ce qui fait qu'en attendant, on n'a comme pas le choix de jouer le jeu de Trump et ce sont ses règles du jeu. D'ailleurs, c'est un président américain. Peu importe avec quel président américain on négocie, on peut aimer le style, le ton ou le sens de l'humour de certains au détriment d'autres. On n'est pas le gros joueur autour de la table. Et c'est là où se retrouve Mark Carney, finalement. C'est que puis-je dire à Donald Trump pour que le ton reste convivial, pour qu'on puisse espérer revoir un traité de libre-échange qui, en passant, est avantageux aussi pour les États-Unis. Il n'y a pas un de ses prédécesseurs qui a perdu au change là-dedans. Donald Trump le fait différemment, mais pour le meilleur et pour le pire, qu'on ait voté conservateur, qu'on ait voté libéral ou pour une autre formation politique, à très court terme, malheureusement, c'est la donne qu'on a. Donc, j'espère que pas juste M. Carney, que tous les autres partis politiques puis que nos institutions ont bien enregistré le message, on ne peut plus être aussi dépendant des États-Unis qu'on l'a toujours été. C'était la solution la moins complexe. Écoute, c'est la porte à côté. Hein? Nos économies étaient tellement imbriquées, il va falloir investir plus d'efforts. On le fait déjà en passant, là, pour discuter avec des gens qui s'investissent là-dedans. Donc, on le fait déjà, mais il va falloir accélérer le rythme puis regarder ce qu'on est capable de faire à moyen et à long terme. Et ce n'est pas tellement jojo ou positif alors que la fin de semaine approche. Mais à court terme, on est très dépendant de M. Trump, malheureusement.
Au niveau économique, puis en plus, nos valeurs sociales aussi tendent à changer, ou du moins, sans que ça se fasse de façon claire, il y a des changements qui sont remarqués. Avant, on était un peu une unité aussi au niveau des valeurs occidentales qu'on partageait. Là, on voit quand même quelque chose qui se fragilise
à ce niveau. Et je suis de ceux qui craignent beaucoup autre chose. Et ça, c'est plus large que juste les États-Unis. C'est quand on regarde à l'échelle de la planète, les pays qui ont des régimes autoritaires sont en croissance. Et c'est eux qui souvent sont alliés ensemble pour essayer de s'en prendre aux démocraties, à affaiblir les démocraties. Et actuellement, on a un président américain qui n'est pas particulièrement attaché à la démocratie. Donc ça, ce serait une émission complète que je pourrais passer à étoffer ce que je suis en train de dire. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, qui ne jouera pas les règles du jeu habituelles, normales, depuis 250 ans, parce qu'on va fêter le 250e anniversaire des États-Unis en 2026. Donc, on a quelqu'un qui s'en va vers un régime autoritaire. Et ça, pour le Canada, c'est pas une bonne nouvelle non plus.
Fais-moi pas ça, Luc, je t'arrête tout de suite, parce que tu le sais, je vais vouloir parler avec toi longtemps, je vois l'émission, ça avance, je vais être fâchée contre toi, tu joues dans quelque chose qui m'excite grandement au niveau du commentaire politique, là. Arrête!
La précision est importante au niveau du commentaire politique.
Garde ça dans ta poche, puis donne-le pas à personne d'autre, OK? Protectionniste. Mais je voulais aussi te jaser, puis t'en as fait un jaloux, t'en as rendu un jaloux en début d'émission, Farnell Morissette, qui avait aussi ce sujet-là entre les mains, puis il dit « Crème, faut en parler, on n'en parle pas ici, c'est sûr que là, Pablo Rodriguez, le Parti libéral, la grande coiffe à Pablo, hein, sur laquelle on fixe depuis des semaines, fait en sorte qu'on ne parle pas du Venezuela. » Il nous a dit « Oh, t'as peur, OK, on change vraiment, vraiment, vraiment de discussion. » Pas tant, on reste encore au niveau des États-Unis, parce que les forces armées des États-Unis ont probablement commis des crimes de guerre, puis sinon carrément des meurtres. Puis c'est ce qu'on constate, selon certaines personnes qui se prononcent, en tuant intentionnellement des marins du Venezuela dans les Caraïbes, quand le bateau était déjà détruit. Le bateau était coulé, était détruit, c'était fini. On a quand même tué les marins. On n'a presque pas parlé de ça ici, dans les médias, mais c'est une énorme nouvelle aux États-Unis. Peut-être qu'on devrait l'aborder.
C'est effectivement énorme. Et là, on donne parfois l'impression de s'acharner contre M. Trump. C'est pas la première controverse à l'international du rôle de l'armée américaine ou d'une vision de l'impérialisme américain. Et là, c'est M. Trump qui est en place, donc c'est de lui dont on va parler. Écoute, c'est un jeu auquel on se livre qui est particulièrement risqué et dangereux et qui montre bien à quel point l'administration Trump s'intéresse à contrôler plus que ce que faisaient les autres administrations ce qui se passe en Amérique. L'argument officiel, on va revenir sur les frappes, l'argument officiel de l'administration Trump par rapport au Venezuela puis aux narcotrafiquants, parce qu'on prétend que les navires sur lesquels on tire sont des navires de narcotrafiquants, c'est clairement qu'on veut un changement de régime. On n'aime pas ce que fait actuellement Maduro au Venezuela. On voudrait un changement de régime. Puis il y a derrière ça l'exploitation de richesses naturelles très importantes, dont un type de pétrole que les Américains ne produisent pas. Ce sont de très, très grands producteurs de pétrole, les Américains, mais ce n'est pas un pétrole lourd comme celui des Vénézuéliens. Donc, déjà en partant, l'argumentaire « je m'en prends à ces navires-là qui viennent du Venezuela parce qu'on lutte contre la drogue », pour moi, c'est une excuse pour les frapper parce qu'on viserait le Mexique avant le Venezuela si on voulait vraiment mettre fin au trafic.
On se rappelle que nos tarifs sont imposés parce qu'il y avait beaucoup de transport de drogue à la frontière. Est-ce que c'est encore une joute qui se ressemble?
Tout à fait. Tout à fait. L'idée du fentanyl, ça a été pour obtenir d'autres concessions. Puis on a bien documenté le fait que du fentanyl, il n'en rentrait pas. Il en rentre, mais il en rentre. C'est infime ce qui rentrait à partir du Canada. Donc maintenant, première chose, est-ce qu'on a le droit, si on croit que ce sont des narcotrafiquants, avant même de parler des marins sur lesquels on a tiré deux fois, est-ce qu'on a le droit aux États-Unis et sur la scène internationale, on est qu'à deux niveaux là, pour évaluer ce dossier-là, on a le droit de tirer sur des navires parce qu'on pense que ce sont des narcotrafiquants, parce qu'on n'a rien vu encore. Chaque fois qu'on a évoqué cette question-là, on nous a dit « oui, c'est des narcotrafiquants ». Mais d'abord, est-ce qu'on tire sur des narcotrafiquants comme ça? Ou ce serait pas préférable d'arraisonner ou d'arrêter les navires, d'interroger ces gens-là, de les détenir au besoin? Non, on ne fait ni une ni deux sans fournir de preuves et on tire sur les navires. Donc, au plan international, comme les Américains n'ont pas adhéré à ce qu'on appelle le statut de Rome, qui fait naître la Cour pénale internationale, on ne pourra pas s'en prendre aux États-Unis pour ça. Mais c'est déjà, je répète, en termes de droit international, problématique. Si le président dit « je tire là-dessus parce qu'on est en guerre contre les narcotrafiquants », pour déclarer une guerre, le président ne peut pas décider ça tout seul. Il faut qu'il demande l'avis au Congrès, les deux chambres, la Chambre des représentants et le Sénat. Il n'y a personne qui a reçu ce message-là. Donc, ça part mal déjà en termes de comportement ou d'attitude. Et l'autre chose, c'est cette deuxième frappe, ce qu'on appelle en anglais le « double tap ». Les Américains ont déjà fait ça sous Barack Obama en envoyant des drones, par exemple. On complétait une première charge. Mais le processus, ce serait long. Le processus était beaucoup plus complexe. Il y avait plus de vérifications pour effectuer les frappes de drones sous Obama que ce qu'on a fait là. Maintenant, en passant, pour Obama, ça reste problématique. Ce n'est pas l'héritage le plus brillant ou le plus glorieux de l'administration Obama. Mais cette deuxième frappe-là est problématique parce que là, les gars, on a vu la vidéo maintenant, elle a été rendue disponible. Les gens au Congrès ont pu l'étudier. Ce sont deux survivants qui sont là. Ils ne peuvent même plus émettre de signal radio. Et l'amiral qui est là en question, qui est l'amiral Bradley, il va d'une deuxième charge pour éliminer les survivants. Ça va même contre le code d'intervention de l'armée américaine. Donc, quand je disais, il y a toutes sortes de niveaux d'intervention, au plan international, c'est déjà tout croche et c'est mal vu. Et on pourrait très bien dénoncer ce qu'ont fait les Américains, même si on ne peut pas s'en prendre aux Américains parce qu'ils ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Mais aux États-Unis, puis au sein même du Pentagone, c'est problématique. On a le livre de jeu des militaires américains. Et là, sous l'autorité du secrétaire à la défense, qu'on appelle le secrétaire à la guerre sous Donald Trump, bien là, on dit on respecte pas notre propre livre de règlement, puis on y va d'une deuxième charge pour éliminer les survivants.
C'est toute une histoire, puis c'est loin d'être terminé, parce que quand ça arrivait, on voyait que c'était pas le seul bateau qui avait été touché.
Il y en a eu un autre cette nuit ou ce matin, d'ailleurs. Il y a 4 autres victimes supplémentaires.
Puis, tu sais, ça vient qu'à raviver un peu notre discussion du départ. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette façon, ce changement de paradigme-là du côté des États-Unis? À quoi il sert? Puis, est-ce qu'on l'arrête? Est-ce qu'on le freine? Est-ce que c'est encore dans nos valeurs? Parce qu'il va falloir se questionner aussi sur, je pense, la position canadienne dans ce genre de frappe-là.
Ben, tu vois, une des choses que les Canadiens commencent à faire aussi, c'est pas qu'on le faisait pas du tout avant, c'est qu'on accélère le rythme, puis on multiplie les rencontres, c'est... Non seulement il faut maintenant se trouver de nouveaux partenaires ou enrichir des alliances existantes ailleurs dans le monde, il faut le faire en Amérique aussi. Mme Sheinbaum, qui est au Mexique, par exemple, a tout intérêt à se faire un ami de M. Carney. Pour Donald Trump, c'est mieux de les diviser, de rivaliser pour les mettre en opposer le Canada et le Mexique un à l'autre. Moi, je pense qu'il y a plus d'intérêt à collaborer puis à développer cette collaboration-là. Mais le Canada n'est pas indifférent non plus à ce qui se fait en Amérique du Sud ou en Amérique centrale. Et c'est le genre de discussion ou de projet qu'il faut mettre de l'avant aussi. Je répète, parce que c'est particulier, hein, Donald Trump, plusieurs de ses partisans avaient dit « on vote pour Trump parce qu'il nous évite la guerre ». Ça semble être vrai au-delà de l'Amérique, mais il agit différemment quand il est en Amérique. Et c'est une forme, on appelait ça avant la doctrine de Monroe. On est en train, c'est un cours d'histoire, mais on est en train de ramener ça au goût du jour, c'est... Les Américains qui, entre guillemets, se font les protecteurs de l'Amérique. Mais ça, les protecteurs, ça vient avec un certain nombre de contrariétés puis d'actions du gouvernement américain dans des pays. Ça a été longtemps l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Mais là, on voit qu'il existe des pressions sur des partenaires plus proches comme le Mexique et comme le Canada. Donc, on ne parle pas de l'invasion du Canada, on ne parle pas d'un 51e État, mais on parle au plan économique d'une autre façon de dominer finalement les pays qui ont des liens avec les États-Unis. Donc, ça, c'est un angle, ça ne doit même pas être un angle mort, ça doit faire partie de notre vision, de notre développement puis de nos préoccupations.
En terminant, Luc, la liberté, sujet important aussi, mais sujet qui est peut-être même lié au premier dont on parlait, donc celui du Venezuela, là, qui a été attaqué, du moins une flotte avec des marins qui étaient à l'intérieur et qu'on a complètement achevé tout ça. C'est la poursuite intentée par le New York Times contre le Pentagone et Pete Hegseth. Il y a actuellement beaucoup de journalistes dans la salle de presse du Pentagone, puis pour y rester, il y a des conditions.
Voilà, puis écoute, pour les gens qui nous écoutent, puis pour travailler dans les médias, vous aussi, les médias sont critiqués. Ils sont remis en question. Ça fait partie aussi du jeu démocratique, le travail des médias, mais les critiques des gens qui travaillent dans les médias, je ne sais pas à quel point des gens parmi les auditeurs peuvent être frileux par rapport aux médias traditionnels, mais regardez ce qui se passe actuellement au Pentagone. Donc, on a Pete Hegseth qui a probablement commis un meurtre ou autorisé un meurtre ou un crime de guerre. En même temps, il n'y a actuellement aucun journaliste au Pentagone pour poser des questions aux responsables militaires. Pourquoi? Et c'est là le fond de la poursuite du New York Times, c'est que pour que les médias qui étaient là avant, les grands médias que les gens connaissent, le Washington Post, le New York Times, CNN, Fox News, par exemple, donc c'est des noms qui sont connus, pour que ces gens-là puissent continuer à être au Pentagone et à interroger les militaires, il aurait fallu qu'ils signent l'équivalent d'un serment de fidélité à Pete Hegseth. C'est-à-dire que les journalistes n'auraient pu écrire que ce que le secrétaire à la Défense dit et autorise. Ben là, c'est dommage, mais par exemple, moi...
C'est un contrôle de l'information, là.
C'est carrément un contrôle de l'information. Et aujourd'hui, écoute, c'est même pas une blague. Alors que Pete Hegseth fait ça, qui pourrait être accusé, par exemple, être... D'ailleurs, il y a quelqu'un qui veut l'accuser dans une procédure de destitution parce qu'il a autorisé un meurtre. Donc, les médias traditionnels ont questionné puis ont produit des articles là-dessus. On a remplacé les journalistes au Pentagone par des influenceurs, mais des influenceurs maga, parce qu'un influenceur, ça peut être positif. C'est de plus en plus à la mode. Il y en a certains qui sont bien informés, d'ailleurs. Mais là, on a mis des influenceurs, partisans de Donald Trump, et au lieu de questionner Pete Hegseth sur les frappes, ils lui ont demandé comment il allait fêter Noël cette année. Donc, quel est le sujet le plus important à couvrir dans les médias au moment où on se parle? Des frappes illégales contre des présumés narcotrafiquants ou quelle boule il met dans son sapin, Pete Hegseth, ou comment il éclaire le salon ou la demeure chez lui? Ben, c'est ça qu'on a éliminé maintenant au Pentagone.
Puis on s'entend, c'est pas grave des influenceurs. Même on encourage s'il y a un accès qui rend les politiciens plus joviaux, là, qu'on est capable d'avoir une conversation funky avec eux, peu importe, comme bien les politiciens font ici au Québec, même avec certains influenceurs, c'est une chose. Mais de là, la défense que moi je vais avoir, puis fort probablement bien des collègues au niveau journalistique, au niveau médiatique, c'est de se dire... OK, mais il faut qu'il y ait encore des salles de presse avec différents médias dans une pluralité de visions qui ont accès à ces politiciens-là pour poser les vraies questions. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se rendre à vous? Qu'est-ce qui va vous permettre de vous faire une opinion? Qu'est-ce qui va vous permettre d'avoir d'éléments d'information pour avoir des débats? Que vous soyez en accord ou pas avec le papier, avec le reportage, avec le raconté de la nouvelle, le récit, vous n'aurez juste pas l'information.
Non, là, ce qu'on a comme régime, c'est quand je parlais de régime autoritaire, c'est un peu ça. C'est un régime qui demande aux médias de simplement porter la parole de l'administration. Quand je parlais d'influenceurs tout à l'heure, tu l'as bien ramené, hein, c'est pas une attaque contre les influenceurs. C'est que ces gens-là n'ont pas de formation et ce ne sont que des porte-voix de l'administration. Donc, c'est pas ce monde-là dans lequel je veux vivre. On parle ici de Pablo Rodriguez, on a parlé de Paul Saint-Pierre Plamondon pour d'autres raisons. On est capable, dans les médias, de s'exprimer sur nos différents partis, sur ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont contre. Aux États-Unis, c'est pas la tendance qu'on encourage présentement.
Merci beaucoup, Luc Laliberté. Bon, analyste, chroniqueur de politique américaine, enseignant. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans On en jase.
Bye à vous deux, à tous les auditeurs. Une bonne fin de semaine à tout le monde.
Bon week-end. J'espère pas trop frisquet, certainement sous la neige, parce que c'est ce qu'on prévoit dans les prévisions météorologiques. Mathias, sur la route, comment ça se passe?
Sur la route, encore des mêmes ralentissements que tout à l'heure. Là, Laurentienne, direction sud, en arrivant sur Capitale, un peu plus difficile. Le gros ralentissement, là, présentement, c'est plus Capitale direction est. Là, c'est entre Pierre-Bertrand puis je dirais boulevard Saint-Jacques, présentement, qui a quand même un bon ralentissement à prévoir, puis qui va continuer de s'empirer avec plus que les heures augmentent. Et également Capitale direction ouest à hauteur de Laurentienne. Léger ralentissement dans le secteur.
Hey, restez là, on se garde parce qu'au retour, on va faire un tour des faits divers avec Mathias. Et là, ce n'est pas le fait divers traumatisant dont on va parler, c'est vraiment le fait divers du genre... T'as-tu pris un crayon de trop, toi, dans le bureau? T'as-tu pris un ciseau de trop, toi, au bureau? Il y avait une fausse rumeur, parce que je crois qu'elle est fausse, là, au niveau des fonctionnaires dans le temps qui prenaient même le matériel qui était disponible au sein de leur département gouvernemental pour les listes scolaires de leurs enfants. Ça va ramener bien des débats chauds en ondes. Mathias, je vais te laisser la parole tout de suite après cette courte pause. On revient dans On en jase avec Mathias et Pascal, parce que oui, Jeff a pris un petit congé aujourd'hui. Dès lundi, il sera de retour. On en jase jusqu'à